La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. La prise de son assurée ce soir, toute une équipe, il faut que je retrouve les noms. Enfin, Pierrick Charles, je le connais depuis longtemps, Julie Garraud aussi, et Alice Seyen, puisque nous sommes installés comme chaque vendredi au bar Le Bel Air, à la Maison de la Radio, où nous vous attendons avec nos camarades du Grain à Moudre, depuis la dispute chaque vendredi, dispute cinéma ou série. Ce soir, autour de moi, Corinne Rondeau, Florence Colobani et Lucille Como pour parler ensemble de Clouseau, l'essentiel, un coffret qui réunit 12 films du cinéaste en version restaurée chez TF1 Vidéo. Nous parlerons également de Borg McEnroe, de Janus Metz, qui est sorti en salle ce mercredi, tout comme We Blew It, troisième sujet de notre dispute, le film de Jean-Baptiste Torré, présent également Boris Pino, qui, faute d'ordinateur, regarde son téléphone intelligent pour surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC. Puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Globe, Architecture et Sciences Explore le Monde. Une exposition à découvrir jusqu'au 26 mars à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Et nous ouvrons cette émission en nous plongeant dans un coffret de 12 films restaurés d'Henri-Georges Clouseau, édité par TF1 Vidéo, alors même que s'ouvre à la Cinémathèque française une exposition consacrée au cinéaste né en 1907, mort en 1977. Par quel bout attraper un coffret et une carrière aussi remplie ?
Mesdames et messieurs, l'assassin est l'un de vous.
Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière?
Chacun pour soi, c'est un panier de crâne.
Arrête! Tiens pas de là, mon Dieu! Tiens pas de là!
Tiens, ça sert vraiment à rien d'être gentil avec toi.
Je te remercie d'être ce que tu es. Merci d'être venu.
Je vais vous dire, vous êtes un type dans mon genre. Avec les femmes, vous n'aurez jamais de chance.
Qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, on en fait un autre, non?
Dites donc, au fond, le corbeau, c'est peut-être vous?
À qui s'adresse cette question posée par Pierre Freinet, Le Corbeau, Le Salaire de la Peur, bien sûr, aussi figure dans ce coffret Clouseau. C'est amusant d'en parler hier à nouveau, puisqu'on parlait de La Serpe, le livre de Philippe Janeda qui a eu le prix féminin cette semaine et qui parle de l'histoire assez incroyable de l'auteur du Salaire de la Peur. Je vous renvoie à ce livre de Philippe Janeda. Mais là, on parle de Clouseau, l'essentiel, le salaire de la peur, le corbeau, l'assassin habite au 21, quai des orfèvres, les diaboliques, le mystère Picasso. Peut-être un premier regard un peu général sur ce cinéaste pour savoir quelle place il occupe dans votre panthéon. Florence Colombani.
Alors, je pense que c'est la réponse de la France à Hitchcock. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a souvent présenté. Et c'est vrai qu'à revoir ses films, on se rend compte que c'est une œuvre incroyablement forte, cohérente, et aussi l'œuvre d'un cinéaste qui se réinvente en permanence et qui explore la perversion et la noirceur de l'âme humaine d'une façon assez radicale et courageuse, et de plus en plus radicale, puisque le dernier film, la prisonnière est quand même très étonnant.
Mais moi, je n'ai pas dit votre Clouseau, c'est qui, c'est
mon
quoi ?
Mon Clouseau, c'est peut-être le Corbeau, il est diabolique, c'est le Clouseau du film de genre du côté des diaboliques, du Boileau Narcejac, le Clouseau qui a dit « je préfère au gris nuancé le noir éclatant ». Et je pense que c'est ça qui séduit.
Voilà, tout est dit. On va arrêter la séquence, partir et continuer à boire des verres au Bel Air.
Exactement.
Corinne Rondeau, votre Clouseau ?
Oh bah c'est le Clouseau le plus noir possible. C'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est vrai que le dernier, La Prisonnière, est un film absolument étonnant.
Il a beaucoup de couleurs, mais il est très très noir.
Oui, il est très
psychédélique, celui-là.
En même temps, c'est vrai que la cohérence est tout à fait justifiée dans le propos de Florence. C'est vraiment un cinéaste qui ne cède pas, finalement, à ce gris étincelant qui, en fait, ni bien ni mal, mais les deux à la fois. Et ce qui est absolument formidable et génial, c'est qu'autant Hitchcock, il a une manière très classique d'enfermer ses personnages dans son récit, autant dans le récit d'Hitchcock, dans le récit de Clouseau, ils sont pas moins enfermés, mais il y a toujours une vrille qui s'opère dans le personnage, dans les personnages, qui fait que justement il passe d'une couleur à l'autre. Et donc c'est tout le temps en mouvement, le mouvement du clair-obscur, mais aussi de l'âme surtout, est toujours en mouvement. Et c'est ça qui est toujours très surprenant, parce que c'est, pour moi, c'est quand même un des. Enfin, c'est de la période, c'est vraiment un. C'est la maestria, enfin, c'est un virtuose absolu. Et c'est surtout quelqu'un qui ne cède vraiment jamais à cette nature humaine dont il n'a aucune illusion. Et il conduit tous ces personnages vraiment à la pointe de ce que peut être l'homme, je dirais. Et donc l'homme, ça peut être quelqu'un qui veut avoir des sentiments les meilleurs, qui ne les aura pas jusqu'au bout. Il y a un film à sketch autour à la vie de Jean, par exemple. Et on voit bien qu'il y a quelque chose des personnages qui cèdent toujours à être autre chose qu'eux-mêmes. Et ça, c'est absolument incroyable, parce qu'il a une manière très, 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 très puissante de le montrer.
Lucile Como, Benjamin de cette assemblée ce soir, autour de cette petite table de la dispute.
Oui, Clouseau, ça assumer cette position-là de Benjamin.
Ça évoque quoi pour vous avant cette émission, avant d'avoir préparé cette émission ?
Les diaboliques vus très, très, très jeunes. Et du coup,
traumatisés ?
Oui, un petit peu. Et je l'ai revu un petit peu avec le même regard. Et d'ailleurs, le regard d'enfant est quelque chose d'intéressant, parce que dans le cinéma de Clouseau, à plusieurs reprises, il y a ce personnage relais de l'enfant, puisque les diaboliques, ça se passe évidemment dans un pensionnat de jeunes garçons. Et puis dans le Corbeau aussi, il y a un pensionnat de jeunes garçons. Donc ce regard d'enfant sur un cinéma qui est pour moi un cinéma de l'effroi. Donc,
elle est mixte à l'école du Corbeau.
Je ne m'en sors pas.
Mais ce sont les garçons qui sortent d'abord, mais les filles suivent.
Hein. Oui, enfin l'enfant en général.
Oui. Non,
donc vraiment le cauchemar pour moi, c'est vraiment des films qui sont tout à fait associés au cauchemar et que j'aime parfois assez moyennement pour ça, parce que tout simplement j'aime pas souffrir et que je trouve que c'est un cinéma qui est parfois un peu sadique avec son spectateur et qui a par ailleurs un côté, mais on va en parler si on parle du Corbeau, très moralisateur derrière la cruauté. De Clouseau, dans ce côté cinéma très fermé, c'est vraiment un cinéma dont vous le disiez, il y a quelque chose d'une maîtrise absolue qui ferme absolument tout. Il y a un documentaire dans le coffret qui montre Clouseau au travail. Il bouclait tout depuis la première idée. Bon, d'abord, c'était souvent des adaptations d'œuvres préexistantes, jusqu'à la fin sur le plateau où c'était quand même probablement un tyran qui martyrisait à peu près tout le monde et qui voulait absolument avoir un regard sur tout. Il travaillait sur storyboard, tout était absolument verrouillé. Et ce verrou-là, il le met en scène d'ailleurs. Il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de fenêtres qui se ferment, de grilles dans son cinéma. Et cette fermeture-là, j'avoue, je la vois beaucoup dans son cinéma. Et parfois, elle me gêne un peu.
Alors, bon, je le place très haut hein, dans mon panthéon, panthéon, très haut, parce qu'il y a cette maestria dans la diversité. Hein. J'ai énoncé quelques titres. C'est vrai que L'Assassin habite au 21, c'est quand même un des films les plus drôles de ces années-là, parce que c'est... L'intrigue est formidable, mais il y a des dialogues qu'il signe. Hein. Henri-Georges Clouseau, c'est son premier film à l'époque. Le polar, je n'ai pas cité tout à l'heure, je crois, Casier des Orfèvres, mais c'est quand même pas tout à fait rien. Le thriller, Les Diaboliques, le film d'aventure avec Le Salaire de la Peur, le film d'art avec le mystère Picasso, et ainsi de suite. Dire aussi, bon, ça c'est pour l'anecdote, qu'il a reçu Palme d'Or, Lion d'Or et Ours d'Or, ce qui est pas mal, mais bon, il a un peu triché parce que Le Salaire de la Peur a eu à la fois l'Ours d'Or et la Palme d'Or. C'est plus possible aujourd'hui de concourir dans les différents festivals, mais quand même, Lion d'Or pour Manon. Alors Manon, ça c'est, voilà, c'est le chaînon manquant pour moi, c'est le point aveugle. Je n'ai jamais vu ce film et je ne me suis pas rattrapé pour préparer cette émission. C'est très mal. Prix Louis de Luc pour les Diaboliques, c'est-à-dire bon, un cinéaste extrêmement reconnu. Pourtant, j'ai l'impression que Clouseau, il est très vite passé de mode. Enfin, dès La Prisonnière, qui a connu quand même une sortie un peu compliquée pour des tas de raisons. C'est un cinéaste qui est un peu laissé de côté. Il n'a pas la place de Melville, il n'a pas la place de Carnet, il n'a pas la... Enfin, peut-être que cette occasion, qui n'est pas un centenaire, mais qui est un truc un peu bizarre, le 110e anniversaire de naissance et 40e anniversaire de mort, et l'exposition à la Cinémathèque française, on peut changer les choses, mais il a une drôle de place dans le paysage quand même, Florence Colombani, dans l'histoire.
Je pense qu'il occupe une place particulière, d'abord chronologiquement, c'est un cinéaste qui débute sous l'occupation, et qui se retrouve donc à cette période où le cinéma français connaît à la fois les compromissions avec l'occupant qu'on sait, tout en faisant Le Corbeau, qui est quand même un film aussi de critique et qui va rester comme un témoignage cinglant sur cette France de la délation, cette France glauque. Et en même temps, il termine sa carrière dans les années 60, au moment de la Nouvelle Vague. Le Salaire de la Peur, c'est un film tourné entièrement en extérieur, où on sent déjà cet appel d'une libération des studios, etc. Mais donc, il est dans cette espèce de position intermédiaire entre un cinéma français que la Nouvelle Vague appellera le cinéma de papa et les auteurs modernes. Mais je pense que sa vraie filiation, elle est avec les grands romanciers du 19e siècle et que ce côté verrouillé dont Lucille Comeau parlait vient aussi de là. C'est-à-dire, moi, j'y retrouve beaucoup l'esprit d'un Zola avec cette idée qui, à l'époque, paraît très moderne, qu'on explique tout par la génétique, par exemple, par une sorte d'archéologie de la famille, comme ça, dans le sang, on retrouve le péché qui se transmet de père en fils. Il y a beaucoup cette idée-là dans le cinéma de Clouseau, qui donc à l'époque paraît moderne, aujourd'hui paraît terriblement daté, et aussi dans cette espèce d'ancrage réaliste, très français, d'une France qui semble avoir vraiment disparu et qui, je pense, du coup, nous crée une sorte de sentiment de distance. Donc je pense que même aujourd'hui, au 110e ou 40e anniversaire, on est à une drôle de distance de Clouseau, mais c'est peut-être aussi un bon moyen pour l'appréhender.
Lucille Comeau.
Oui, moi, je différencierais pour le coup des films qui, à mon avis, ont vieilli ou peuvent avoir vieilli pour des spectateurs d'aujourd'hui, et notamment les premiers films. Je pense que Le Corbeau, Les Diaboliques, ça représente en effet quelque chose de la France à laquelle on a du mal à s'associer aujourd'hui. En revanche, c'est vrai qu'il y a des films qui, je parlais de quelque chose de verrouillé, qui échappe, à mon avis, totalement à ce verrou-là, et qui est Le Salaire de la Peur, à mon avis, vraiment le plus représentatif. Et là, ce sont des films qui ont certainement moins vieilli. Moi, j'ai découvert Le Salaire de la Peur parce que je ne l'avais jamais vu. Et j'avoue que ça m'a quand même fait un sacré effet.
On y vient dans un instant. Peut-être on parle du Corbeau un instant, Corinne Rondeau. C'est le deuxième film d'Henri-Georges Clouseau, 43.
Ouais, c'est ça.
Je crois, ouais. Me semble-t-il. Donc, petit village, un médecin.
Petit village, même un petit village qui peut être ici ou ailleurs.
Ça, c'est le premier carton. Voilà. Hein, un village ici ou ailleurs, à l'ouverture du film. Un médecin qui travaille dans l'hôpital, qui est un homme solitaire, qui garde cette solitude. Et puis quand même, qui s'intéresse peut-être à la jeune femme d'un de ses confrères. Et puis, des lettres anonymes ont commencé à pleuvoir, d'abord envers lui, et puis... tout le village va recevoir ces lettres, ces dénonciations. Effectivement, on est dans la France occupée. C'est un film continental, donc un film évidemment coproduit par l'Allemagne à cette époque-là, parce que ce n'était pas possible autrement. Le Corbeau, aujourd'hui... Moi, je l'ai revu hier soir, ça faisait très très longtemps, ça fait drôle. Hein. Je vais y venir.
Oui, ça fait drôle, mais ça rebondit aussi ce que venait de dire Florence tout à l'heure, parce que la manière d'identifier Le Corbeau comme Clouseau, c'est aussi voir que c'est un réalisateur qui s'est toujours intéressé au présent. Et d'ailleurs, dans sa filmographie, on voit bien que c'est quelqu'un qui va regarder exactement ce qu'est son présent. C'est pour ça qu'on a aussi du mal. Quand on est à son présent, c'est très difficile d'être identifié comme un artiste du présent. Et d'autant que son réalisme est quand même teinté d'un expressionnisme très, très grand. Et c'est très manifeste dans Le Corbeau. Avec ces grandes ombres derrière les personnages, ou cette scène que tout le monde connaît quand on l'a vue, de la lampe, ou le clair-obscur, justement, la lumière et l'obscurité apparaissent par un battement, hein, d'une certaine manière. Voilà, les choses sont toujours en mouvement. Et le film, c'est aussi toute une circulation autour de qui qui envoie ces lettres. Évidemment, dans l'hystérie totale, il y a évidemment tout le monde qui s'y met à la délation. Ce qui est formidable, c'est qu'à l'époque, quand même, donc la Continentale, c'est les occupants qui ont la main là-dessus. Donc le film est descendu à la fois par le régime de Vichy et en même temps par les résistants. Donc il est exactement à l'endroit du présent. Et aujourd'hui, effectivement, on a du mal à voir le présent d'une époque donnée. Et ça devient un document vraiment très très fort, puisqu'en fait, à l'intérieur de la production, il trouve l'espace pour faire un film que auquel tout le monde ne veut pas adhérer. Donc il faut beaucoup de temps pour dire c'est pas un collabo, etc., etc. Et moi, je trouve que ce film, il a une très grande justesse, à la fois parce qu'il est très français, dans sa culture, je dirais, la lettre. En même temps, cette lettre, elle est faite avec, quelque chose qui est en dessous, puisqu'il faut chercher qui a écrit cette lettre. Et cette circulation, vraiment, qui passe de personnage en personnage. Alors, il y a évidemment des premiers rôles, on va dire, Ginette Leclerc. Il y a le psychiatre génial qui est joué par... j'ai oublié son prénom, Larquet, Pierre Larquet peut-être,
je crois.
Qui est absolument génial, parce que ça parle beaucoup, et en même temps, dans ce dialogue, tout se dit, et rien ne se défait, jusqu'à ce que, voilà, ce personnage qui est censé être le personnage qu'on va dénoncer, le médecin...
Pierre Freinet,
qu'on voit au tout début, parce qu'en fait, une femme va accoucher, il va sauver la femme.
Et pas l'enfant.
Et donc, ça devient, justement, le point crucial. C'est un homme qui va séduire les femmes, et finalement, il va tuer les enfants, donc c'est un assassin. Hein. Et comme sa vie est, comme vous l'avez dit, un petit peu en retrait, il porte tous les doutes sur lui. Mais cette circulation des personnages, c'est aussi de montrer, je dirais, la manière dont le dialogue aussi fait bouger sans arrêt les personnages à l'intérieur de leurs propres actions. Et donc là, c'est vraiment encore une sorte de virtuosité absolument remarquable. Quoi.
Lucile Comeau, du mal à être au présent de 1943 en découvrant le corbeau.
Non, mais c'est drôle ce que dit Corinne. Moi, je vois justement rien qui bouge et beaucoup de choses figées. Mais vous me le faites
voir un
petit peu
différemment. Mais parce qu'en fait... peut-être c'est à cause des grilles et des portes et des fenêtres, mais qui lui servent en fait à faire un cadre de...
Oui, un système.
Non, c'est pas un système, c'est pour faire tenir l'image avec justement les contrepoints que la géométrie fait dans le dialogue. Et donc, d'un coup, ça prend vraiment une tenue extraordinaire dans le dialogue, parce que... Et puis ce qui est très fort, c'est que les dialogues ne sont jamais en rapport avec l'image. Ils ne redoublent jamais avec le dialogue l'image. Ça, c'est vraiment très fort, je dois dire.
Lucile, pour poursuivre.
C'est vrai que c'est assez frappant, cette filiation entre le roman, vraiment un roman de la fin du 19e siècle, et notamment Le Corbeau. Je trouve que c'est moi, ça m'a fait penser à des romans qui sont à la limite du gothique, et c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs dans le film. C'est tous les éléments d'étrangeté par lesquels ça peut un petit peu échapper au système, notamment ce pied beau, donc d'un des personnages, donc de cette jeune femme, de Denise. Puis il y a aussi le rasoir, il y a des plans très serrés sur ce rasoir dont on sait après qu'il va servir à un suicide et qui est un petit peu un objet étrange. Il y a ce prologue, tous ces petits détails
dans le cimetière. Enfin, il y a quand même la caméra subjective du début. On est presque dans du Roger Corman. C'est assez étonnant, ce côté presque Halloween du film.
Et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans le film. Après, sur la forme, vraiment, j'ai plus de difficultés. Je trouve que c'est très, très moralisateur. Il y a cette scène qui est quand même incroyable, donc, où il y a une lettre qui tombe sur un cortège funéraire. Et en fait, là, on se rend compte que la lettre, donc le corbeau, c'est la caméra. C'est-à-dire qu'il y a un plan en contre-plongée. Et donc, en fait... C'est cette position de surplomb du cinéma par rapport à ses personnages et du cinéaste m'agace un peu. Enfin, m'agace, c'est pas le mot. Mais je trouve que c'est un cinéma qui... Ça me laisse un petit peu à l'extérieur.
Florence Colombani, sur Le Corbeau.
Non, c'est ce qui m'a frappé, c'est ce côté toujours à la limite du grand guignol, quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans Les Diaboliques, hein, avec la scène finale que je ne dévoilerai pas à ceux qui ne l'ont pas vue, mais qui a ce côté presque exagéré et grand guignolesque. Mais en même temps, c'est sur un, enfin, Le Corbeau est sur un fil. Le Corbeau ne rentre pas dans cette dimension-là comme Les Diaboliques. Et c'est ce fil-là qui, en fait, est très rare dans le cinéma français. On est dans ce mélange de gothique, de chronique réaliste, de commentaire social, et je ne vois pas de comparaison, je ne vois pas d'autres cinéastes qui aient marié les genres de cette façon.
Bon, et puis il y a le jeu de Pierre Freinet, quand même, qui est très particulier, qui mériterait à lui seul une émission entière, enfin, et son corps, qui est très, très impressionnant, la façon qu'il a de monter les marches de l'escalier 4 à 4. Enfin, il y a à la fois une raideur et une agilité qui est très étonnante chez Pierre Freinet, qui a vraiment une filmographie hallucinante. Lui aussi, hein, il n'est pas vraiment à la mode, Pierre Freinet, mais c'est un pilier du cinéma français. Mais pour dire quelques mots quand même du Salaire de la peur, Lucile Como, puisque vous l'avez découvert, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette découverte?
Alors déjà, ce qui m'a beaucoup impressionnée dans ce film, c'est qu'il a pour le coup une structure très différente des autres, qui est une structure assez binaire, c'est-à-dire qu'il y a un très long prologue, enfin, je ne sais pas comment appeler ça autrement, qui donc se situe dans cette ville, enfin on ne peut même pas vraiment dire ville, mais cette espèce de camp, de prison en plein air dans lequel s'ébattent les personnages qui essayent de partir mais qui ne peuvent pas partir, et on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est-à-dire qu'on a une galerie de personnages qui sont plus ou moins des truands de toute nationalité qui sont là et qui ne peuvent pas partir alors qu'ils peuvent arriver. Charles Vanel arrive, donc a priori on peut arriver, mais on ne peut pas partir. Et cette structure-là, donc, qui après devient un film d'aventure, qui a été tourné en Camargue, mais qui est une sorte de western en fait, ou en effet de film d'aventure, c'est très surprenant. Et en fait, je crois que c'est la première partie, paradoxalement, alors que la deuxième est beaucoup plus connue et il y a un suspense assez impressionnant. C'est là vraiment la première partie qui m'a le plus impressionnée et le plus plu. Et quelque chose de très théâtral que vraiment j'ai découvert là pour le coup chez Clouseau.
Et après, il s'agit quand même de convoyer un chargement de dynamite avec un gros camion sur des routes de nitroglycérine, pour être précis, effectivement, dans un gros camion, dans des chemins évidemment peu faits pour le camion, Florence Colombani. Et là, il joue avec nos nerfs de toutes les façons, Clouseau.
Oui, alors c'est un film qui est virtuose par son montage, par son utilisation du suspense, enfin. Sa gestion du public, je dirais, parce que tout plan est pensé en fonction de la réaction que ça crée chez le public, et on sent le cinéaste du contrôle absolu, mais dans ce que ça a de plus jouissif aussi, de se sentir manipulé comme ça par un très grand cinéaste. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est aussi, en le revoyant, c'est ce côté très viril du film. Alors, c'est un film d'hommes qui transpirent, d'hommes qui sont dans la jungle, et les personnages de femmes, enfin, le personnage de Vera Clouseau et les personnages auxquels il fait allusion, par ailleurs, sont quand même très maltraités. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à voir la filmographie de Clouseau sous cet angle de son rapport aux femmes. Bon, on sait que c'était un tortionnaire. Voilà, on sait que c'était un tortionnaire d'actrices. Enfin, que sur les plateaux, les actrices souffraient beaucoup. Il était connu pour gifler notamment ses actrices. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'assez impressionnant dans son regard finalement assez ouvertement dépréciatif et avec même cette femme, enfin qui était sa femme et pour laquelle il avait nommé sa compagnie de production et qui est pourtant si maltraitée dans ce film.
C'est voilà. Pour dire. Corinne Rondeau, très rapidement sur le Salaire de la peur, on avait parlé il y a un an ou deux de Sorcerer, le film de William Friedkin qui est un sorte de remake de ce film.
Mais j'ai pas
vu. Il faut que vous voyiez ça, Corinne.
Non, mais c'est vrai qu'il jette tout le temps sa femme à terre. Tout le temps. Moi, ce qui est génial dans le film, c'est qu'il roule très lentement, mais le film... Plus ils avancent et plus la route est encore longue. Et je trouve ça absolument génial parce que c'est vrai que le prologue dure une heure et puis ensuite il y a 1h20 pour y aller. Mais en fait, il dit plus que 2 km. Et en fait, il y en a pour 30 minutes encore. Et il n'arrive jamais. Et on sait que ça. Quand on n'arrive jamais, et qu'on y arrive. En général,
ça finit pas.
Oui, mais je veux dire, c'est toujours ça, cette manière d'aller au bout des choses, et cette manière dont tout ce qui peut nous échapper est aussi ce qui nous révèle, et même dans la joie, des choses se révèlent jusqu'au bout, puisque l'obsession quand même de Clouseau, c'est la mort quand même.
On ne peut que finir là-dessus. Cette séquence sur Clouseau, l'essentiel coffret de 12 films du cinéaste, version restaurée, chez TF1 Vidéo, dire que le mystère Clouseau, l'exposition de la Cinémathèque française vient d'ouvrir et qu'elle dure jusqu'au 29 juillet. Puis à noter aussi que demain, Antoine Guillot consacrera son émission Plan Large à Clouseau, donc complément XXL à cette dispute. C'est à 14h sur France Culture, je vous rappelle, tous les samedis. À suivre dans la dispute, Borg, McEnroe et We Blew It.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission publique du Bar Le Bel Air à la Maison de la Radio, comme tous les vendredis soirs, consacrée au cinéma avec à présent Borg McEnroe, film de Janus Metz, vous rigolez déjà, Corinne Rondeau. Un film quand même improbable sur le papier, même si la vague des biopics frappe tous azimuts. Bon, on était curieux. de voir ce film, on l'assume. Notre curiosité a-t-elle été récompensée ? Suspense, le temps d'écouter la bande-annonce.
What we are seeing right now is unique. Tennis players are like rock stars. But this rivalry is forcing people to ask themselves, who am I? The gentleman or the rebel?
Ladies and gentlemen, John McEnroe.
You and Borg are as different as two people could possibly be.
You keep going back to Borg. Is he backstage or something? Is he gonna like jump out of a cave?
He's got all these superstitions, ritual. It's like a fucking religion.
I'm just like anybody else. I'm not a machine.
Fuck! They say he's an iceberg, but really he's a volcano, keeping it all in until boom.
Look, I get that you got your hero, your gentleman, Borg, and you need a villain.
Don't you get it?
Känns som att folk bara väntar på att du ska falla.
Du kommer slå honom.
Alltså alla verkar tro att det här är lätt. In i skiten, Björn. Kom igen, Björn. Du är en stjärna, du slår honom. Lätt.
Här inne, Björn. Här inne.
Remember one, you'll never be remembered as one of the greats. You know why? Because nobody likes you.
Do you think you'll be able to keep your temper?
Let's shut the fuck up, man.
Iceborg versus Super Brad.
You don't understand what the fuck it takes to play tennis. Everything in me gets left out on that fucking court, and none of you understand it because none of you do it.
Jag står här nu. Allt jag har gjort har lett till det här ögonblicket.
Borg, McEnroe. Florence Colombani, vous êtes classée combien en tennis ?
Ouh là là, mais je n'ai pas de classement.
Vous n'avez pas de classement.
Donc est-ce que je suis vraiment compétente pour parler de Borg McEnroe ?
Je ne sais pas. Vous êtes critique de cinéma, donc ça pourrait marcher si Yannou Smet, ça fait un film. C'est ça la question.
Alors moi, je trouve que ça fait une bande-annonce. Je trouve que c'est très très juste d'avoir passé la bande-annonce pour introduire ce film, parce qu'en fait, c'est une longue bande-annonce. C'est la bande-annonce du match, le fameux match...
La finale de Wimbledon finale de... 1980.
Exactement, qui a été un des plus grands, un des plus beaux matchs de l'histoire du tennis, etc. Mais donc on nous prépare cette finale pendant, je dirais, une bonne heure de film. Ensuite, cette finale a lieu, mais de façon raccourcie, puisqu'on est dans un film qui doit condenser le match.
C'était en 5-7 en plus, donc. Voilà. Oui.
Et donc c'est un peu un drôle d'effet d'attente qui n'est jamais vraiment satisfait, puisqu'on ne voit pas le match en fin de compte. Donc moi, j'ai été un peu perplexe devant cette construction. Voilà.
Mais est-ce le sujet du film ?
Ben, le sujet du film, je pense, enfin, de ce que j'en ai compris, vous me direz, Arnaud,
ce que j'en ai compris, je ne dirais pas ce qu'il en est. Hein.
De ce que j'en ai compris, c'est la gémellité profonde entre ces deux tennismen qui ont l'air d'être des l'antithèse l'un de l'autre.
On est en train de perdre Corinne Rondeau pendant que vous parlez, Florence. Mais bon, allez-y.
Mais en fait, c'est le même homme, puisque l'un jette...
Casse ses raquettes, insulte les arbitres, les spectateurs.
Et l'autre, au contraire, est dans une espèce de trouble obsessionnel compulsif.
Iceborg.
Terrible,
hein,
et ne montre aucune émotion. Et en fait, on comprend assez vite, quand même, que tout ça, c'est la même chose. C'est la tension du tennis, c'est l'émotion. Voilà.
Bon, voilà, ça, c'était une chute magnifique. Lucille Como.
Alors, je ne serais pas aussi sévère. Alors, déjà, moi, je ne dirais pas que c'est un sujet improbable pour un film. Je trouve qu'au contraire, c'est un bon sujet de film. Bon, après. C'est pas forcément un très bon film, mais ça aurait pu faire un bon film. Alors, est-ce que c'est un critère ? Je ne sais pas.
Non, mais...
Du coup, j'y ai probablement cherché des points positifs parce que j'avais envie de voir un film sur ce match-là, qui est donc un match mythique que moi, je n'avais pas vu. Et en plus, dont je ne connaissais pas l'issue. Donc, petit suspense supplémentaire. J'attendais vraiment de savoir qui avait gagné la finale de Wimbledon 80. Ah bah, désolé,
Corinne. On ne va pas le dire.
Non, on ne le dit pas justement pour les gens comme moi qui n'avaient pas la fin du match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que le cinéaste est franchement du côté de Borg, quand même.
Ah. Oui, alors en effet, c'est un film qui c'est vrai. C'est un film qui prend pour sujet, mais le début d'ailleurs,
c'est-à-dire qu'il a un acteur sur les deux, donc ça aide.
Ah non, ça je suis pas d'accord.
Non, bon, je reviendrai.
Alors moi justement, je trouve que non, mais pendant qu'on y est, je trouve que justement un des points forts du film, si on peut dire, ce sont ces deux interprètes. Je les trouve vraiment bons tous les deux. Je trouve qu'ils arrivent à transcender la structure du film, qui est en effet une structure hyper binaire. Bon,
avec
on sent que
voilà,
le réalisateur essaye de nous dire que en fait c'est pas ce que vous pensiez, c'est juste l'inverse, donc c'est pas plus
c'est
intéressant.
Différent.
Voilà, c'est pas si différent et c'est pas très intéressant. Mais justement, je trouve que le jeu des acteurs fait qu'on arrive à sentir quelque chose de ces personnages-là que je trouve pas inintéressant. Vraiment, je trouve que Shia LaBeouf est vraiment vraiment convaincant dans le personnage de McEnroe, qui est un personnage passionnant. Je veux dire, au-delà du film, bon, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire un film de fiction pour en parler. Mais McEnroe, je trouve que c'est un personnage intéressant.
C'est
donc ça m'a intéressé de le voir, même, voilà.
Vous avez le nom de son interprète ?
Sverrir Gudnason, dont je crois qu'il est islandais, mais bon, apparemment, il est suédois, mais je crois qu'il est islandais. Il parle très bien suédois, probablement. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Après, c'est vrai que le problème du film, à mon avis majeur, au-delà des flashbacks, de la musique extrêmement pénible, c'est le fait qu'on ne voit pas de tennis, tout simplement parce que les acteurs ne sont pas des joueurs de tennis. Donc, voilà, à moins d'avoir mis des archives, et c'est un choix du film que je trouve pas idiot, de ne pas mettre d'archives de ce fameux match. Voilà, il n'y a pas de tennis, et ce qui m'aurait intéressé, j'attends ce film, c'est un film sur le style, parce que apparemment, ce qui caractérisait aussi ces deux joueurs, c'était des styles de tennis très différents, et ça, il y a quelques vagues allusions, on sent que c'est un peu la puissance contre la délicatesse, etc., mais je pense qu'il y a quelque chose à faire de ça, je pense que le tennis, ça peut être un bon sujet de cinéma, d'ailleurs, Danet a écrit sur le cinéma, je pense qu'il y a des filiations possibles, et bon, là, c'est pas un bon film.
Danet a écrit sur le tennis, en même temps que sur le cinéma.
Oui, sur le tennis, pardon.
Sport préféré de Jean-Luc Godard, mais la question du sport au cinéma, je vais la garder juste un peu après, parce que ça n'existe pas le bon film avec du sport dedans au cinéma.
Sur la boxe, un peu.
C'est l'exception, et il faut que ce soit au moins Robert De Niro ou Stacy Keach aussi dans le film de John Huston, dont le titre m'échappe tout de suite, qui était assez formidable. Mark Wahlberg.
Si, le film sur les deux frères boxeurs.
Moi, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu. Corinne Rondeau sur Borg McEnroe.
Oui, mais c'est toujours sympa d'entendre notre ami trouver des points positifs sur un film qui est quand même une sorte de rien. Le film commence avec tiré de faits réels.
Inspiré de faits réels.
Il faut arrêter. Oui. Je veux dire, à un moment donné,
McEnroe, on s'en serait douté que c'était inspiré de faits réels en même temps.
Oui, non, mais justement, c'est d'une aberration totale.
Oui,
et donc, c'est une manière de nous dire, ok, les gars, on peut plus vous raconter d'histoire au cinéma. Voilà, ça c'est déjà fait, d'où la bande-annonce notamment. Donc
l'effet
ce film
bande-annonce
est d'une nullité, mais incroyable. Alors le fait de dire, ok, je vais pas vous mettre des extraits du film,
du match. Ne confondez pas tous les mots sans arrêt.
Non, bien sûr, mais bon, c'est normal, écoutez, on est dans un bar aussi, quoi. non, mais je trouve ça absolument désolant. Désolant qu'on en parle, désolant qu'il y ait de l'argent... pour en faire, les acteurs, à part le type qui ressemble vraiment à Borg,
Chalibuf, bof,
je sais pas, il est d'une nullité, mais on ne peut pas le croire. Même les cheveux, on n'y croit pas. Donc, si vous voulez, moi je ne peux pas. Le film est déséquilibré, il n'y a que Borg, alors... Ouais, la température de la chambre, c'est quoi? C'est 15 degrés pour les battements de cœur. Mais on s'en fout. Je veux dire, même le tennis peut faire, évidemment, n'importe quel sujet peut faire un sujet de cinéma. On peut avoir, je veux dire, si on a du talent, un scénario, un réalisateur derrière la caméra, on fait un bon film. Le problème, c'est que c'est rien. Ce n'est rien. N'allez pas voir ce film. C'est interdit. Vous allez dépenser 11, 12 euros, 9, 70, je ne sais pas. Arrêtez. Ça porte sur les cheveux frisés et le bandeau dans les cheveux de Borg. C'est nul. Et alors, évidemment, c'est la gémilité entre... Ouais, bon, il y en a un qui casse tout et l'autre, en fait, c'était pareil, mais tout à l'intérieur. Waouh. Donc, effectivement, les deux ne font qu'un, d'autant qu'ils ont eu 7 victoires chacun. Et quand Borg s'est fait battre une fois par McEnroe, il a arrêté sa carrière. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai le cœur qui palpite en vous disant ça. Ce film est sans horizon.
Sans guéridon. Il n'y a pas de guéridon.
Mais notamment, il y a quand même plein d'horizons. Il est sur sa balustrade à Monaco et on voit la mer. Waouh, on se dit, on va voir un beau film.
Parce qu'on croit qu'il va se jeter
par la
fenêtre. On va voir
un grand angle. Ouais, non, mais ça va, quoi. Borg était suicidaire. Bon, allez le voir alors. Bon, non, le film est nul, je le dis. Voilà.
Vous l'avez déjà dit d'ailleurs.
Ouais, mais il faut que je le redis. Mais le film, en plus, est totalement déséquilibré. C'est-à-dire que il y en a Borg à peu près à 60%.
On n'arrêtera plus, je crois.
Non, mais je vais.
On va arriver au tie-break, Corinne. Arrêtez-vous.
Ok, d'accord.
Tie-break.
13-12.
Tie-break, 13-12. Moi, je l'ai vu cet après-midi, donc je suis un peu sous le choc. Moi qui ai vu ce match en 1980, sans doute avec mon papa devant la télé,
aussi,
et qu'on était, on était pour Borg à l'époque, mais on aimait déjà beaucoup McEnroe, mais la seule chose qui marque la fin du film, qui pourrait être un beau moment de cinéma, c'est le moment où le public change d'avis sur John McEnroe, parce qu'effectivement c'est ce match-là qui, historiquement, fait basculer le public, mais Il y a du featuring qu'on voit passer. Vitas Geroulaitis, dont j'avais oublié l'existence. Jimmy Connors, enfin, vraiment moins vrai que nature, c'est pas possible. Et le problème immense, c'est toujours la question, j'y reviens, du sport au cinéma. Les films où il y a du football dedans, on n'y croit pas une seconde que ce soit une véritable action. Et les pauvres échanges qu'on voit, ou les pauvres coups de tennis qu'on voit, décrédibilisent absolument tout. Il aurait fallu faire une idée pour Janusz Smets, refaire le film et enlever toutes les scènes de match. Parce que là, voilà, tout ce qui est autour, avant, après, mais surtout pas montrer les joueurs sur le court, parce que là, ils se tirent une balle dans le pied. Florence Gambani, les films de sport...
Je pense que je ne vais pas enfoncer un dernier clou dans le cercueil de ce film, c'est terrible.
Non, mais on pourrait essayer de faire un nouveau montage,
je pense que c'est ce que, quand même, ce que Lucille Comeau disait, c'est qu'il y a un vrai sujet là-dedans, mais c'est un sujet de documentaire, en utilisant les archives, en explorant... Je ne vois pas du tout ce que la fiction... Ou plutôt, c'est même pas de la fiction, c'est l'équivalent d'un docu-fiction. On rejoue des choses avec, en essayant d'être très fidèle à la réalité. Donc, il n'y a pas du tout de réinvention des faits par le cinéaste. Donc, oui, un documentaire pourrait se justifier.
Mais la seule chose, je me demandais ce qui était inspiré de faits réels. Ça veut dire qu'il y a des choses qui le sont moins. Et je me demandais dans les détails ce qui était véridique ou pas. Et en même temps, ce n'est pas très intéressant. Corinne ?
Je pense que c'est la figure paternelle entre l'entraîneur et le papa.
Non, ça je crois que c'est très réaliste.
C'est pas possible.
C'est le problème des enfants, ça, hein, des enfants sportifs. Lucille Comeau, on va finir sur une belle note concernant
Borg McEnroe. Je me retrouve à défendre un film que je trouve en effet pas bon, mais du coup je me dis...
Ah bah c'est comme
non,
ça.
Mais je suis en train de découvrir que peut-être
on a failli le déprogrammer, vous avez dit on le garde.
C'est quand même une énorme découverte pour moi là. Que j'aime tellement le sport que j'ai
pas aimé. Vous en regardez beaucoup du sport. Vous le subissez, c'est ça que vous voulez dire? Non, pas de tennis.
Si, je regarde un peu le tennis. Non, moi, par exemple, il y a une scène que je trouve assez bonne. Le début du film m'a... Vraiment, j'ai eu un petit moment de... Je ne sais pas comment dire...
Donc, je rappelle qu'au début du film, il y a un faux film Super 8 sonorisé, ce qui n'existe pas.
Non, alors
on voit
après,
le petit Borg taper sur les portes du garage.
Moi, la scène qui m'a intéressée, c'est la scène où Björn Borg rentre dans un café pour échapper à la foule en délire, parce qu'à cette époque-là, c'était une vraie star, donc il a été poursuivi partout. Donc il est à Monaco, en effet. Il a regardé la mer, comme disait Corinne.
Il a perdu le clé de sa Porsche, donc il faut qu'il rentre à pied. Voilà.
Et il demande un café, il a pas son portefeuille, il peut pas payer. Et le type qui est en face de lui se trouve être le seul type de Monaco qui ne sait pas qui est Björn Borg. Et du coup, il lui dit « Mais vous faites quoi dans la vie ?» Il lui répond « Je suis électricien. » Je sais pas, il y a une scène assez étrange à ce moment-là. Qui, pour le coup, il n'y a pas cette énorme mascarade musicale, qui est assez simple et où je trouve l'acteur assez juste. Et vraiment, j'ai eu un petit moment où je me suis dit « Ah, pourquoi pas, ce personnage-là m'intéresse, le film ne va pas être si mauvais. »
Pas voilà. De bol, bon, c'était voilà. La seule scène de cette acabie. Moi, j'aime beaucoup cet acteur, je trouve que
Moi,
ça m'intéressait de le regarder quand même.
Et puis plastiquement, on ne peut pas dire que ce soit désagréable non plus.
Voilà. Par ailleurs, Borg ne peut pas être tout à fait mécontent d'être représenté par ce comédien. Bon, alors si on écoute Corinne Rondeau, donc n'allez pas voir Borg McEnroe. Si on écoute un peu plus Lucille Comeau, bon, avec énormément de réserves, on peut éventuellement, bon, si on a un pass illimité, des choses comme ça, ça coûte pas cher, aller voir Borg McEnroe de Janusz Smets, qui est sorti mercredi dans les salles.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et le troisième sujet de cette dispute consacrée le vendredi soir au cinéma, c'est un documentaire cette fois-ci. Enfin, on verra. We Blew It, écrit et réalisé par Jean-Baptiste Torré. Alors, je profite de l'occasion pour dire qu'on m'écrit de temps à autre pour me dire, surtout via Twitter, quand est-ce que Jean-Baptiste Torré revient dans la dispute. Alors, je rappelle que Jean-Baptiste, effectivement, a fait plusieurs saisons avec nous dans cette émission. Il est ensuite parti à France Inter, chez nos amis de France Inter et cousins, faire une émission qui s'est arrêtée. Après ça, j'ai proposé de revenir se disputer, mais il a pris la route. Le résultat, c'est arrivé sur nos écrans avec ce film qui s'appelle We Blew It.
You know that saying sex, drugs and rock and roll? You weren't there if that's what you think, sex, drugs and rock and roll. It wasn't sex, drugs and rock and roll. It was rock and roll. Drugs. More rock and roll. More drugs than sex. That's how it was then.
I do think those of us who were raised in the 60s and 70s were raised at a time of an awakening.
We thought that we could change the world.
Bad is good. Good is bad. Straight is bad. Unstraight is good.
Those are the values that we believed in.
There are questions that were unique to the 60s. And the moment a society turns to artists for answers, they're going to have great art.
People remember the way Reagan behaved. He would hug the flag. He would kiss the flag. He loved America. And Donald Trump does too.
In other words, if you vote for Hillary, and if I was in the Marine Corps serving you again, I would not fight for you, because you don't deserve it.
We were just the center of the universe, and then that moment passed.
I think 100 years from now, when people look back at the 20th century, they'll still be a lot more interested in the 60s than the 80s.
Jean-Baptiste Torré, son film est sorti mercredi dans les salles. Bon, Corinne Rondeau qui a retrouvé un peu de calme. Vous qui avez souvent croisé le fer avec notre camarade Jean-Baptiste autour de cette table et de ses micros.
Ah, ça... Pas que. Bah, il m'a donné envie de voir beaucoup de films.
Ah ben oui, non mais croiser le fer, ça ne veut pas dire qu'on est dans des accords.
Oui, oui, bien sûr. Mais en plus.
En plus, We Blew It, votre premier regard sur ce film.
Mais écoutez, je dirais que c'est plutôt un film qu'un documentaire. Voilà. Déjà, donc le film fait 2h20 tout de même, donc c'est pas rien. Je trouve que c'est un des derniers road movies qu'on peut voir. Et je trouve qu'il y a réussi avec beaucoup de grâce et en même temps beaucoup de ténacité. Dans la mesure aussi où c'est un panorama. Enfin, on a un cinémascope, on a un grand angle, on a vraiment un film qu'il faut voir en salle. Presque à se dire c'est dommage quand il y aura un DVD, mais j'ai trouvé que c'était une manière aussi de dire je fais pas que quelque chose qui est lié à un réel, une réalité américaine en 2016, puisque c'est en 2016 qu'il prend la route, cette route 66 qui va faire de l'Est à l'Ouest, en interviewant à la fois des réalisateurs mais aussi des Américains. Donc c'est ça qui est beau, c'est qu'il les met à égalité, et à l'intérieur de ce grand mouvement, de ce road movie, je sens que mon ami
Lucille Comeau
est en train de
bouillir.
C'est très bien parce que j'ai plein d'arguments. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est à la fois il y a le Jean-Baptiste Torré qu'on connaît à travers ses écrits du cinéma américain. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a pris le risque de quitter ses écrits et de quitter la critique pour être sur le territoire américain qu'il aime, et ça se voit dans le film. Et cette passion de l'Amérique se voit dans ses images, donc ça c'est une grande qualité, et quand même avec beaucoup d'émotion. Les images sont d'une très très grande qualité, le montage est d'une grande beauté, notamment sur les articulations et les passages qui sont justement le road movie et dans le montage, c'est ça qui est formidable. Et moi, je trouve qu'il a une vraie puissance filmique plutôt que documentaire. Parce que la fin du film, me conduit à penser que Jean-Baptiste Torré fera un autre film qui ne reviendra sans doute pas à la critique. Et que j'ai vu ce film comme la fin étant un début, et qui est aussi le début de son film Easy Rider, un des premiers films, le premier road movie, dont l'idée principale est quand même sur le blouson, le drapeau américain du fils
Peter Fonda.
Peter Fonda. Il ne trouve pas les États-Unis, mais ils sont dans son dos. Et donc, en fait, Jean-Baptiste Torré va prendre la route en 2016 pour voir où est les États-Unis après cette question. Où va passer toute cette énergie des années 60, eh ben, on va voir un des résultats, qui est une dimension aussi sociologique, qui est un des éléments forts aussi dans la pensée de Jean-Baptiste Torré, à travers notamment Jean Baudrillard.
Lucille Comeau, qui bouillait.
Oui, alors moi, j'ai pas du tout vu le film avec le point de vue de quelqu'un qui connaît particulièrement la pensée de Jean-Baptiste Torré. Alors du coup, ça change peut-être ma vision du film, parce que moi, j'ai pris le film tel qu'il était, c'est-à-dire un film sur les États-Unis. Sur les États-Unis, je saurais même pas préciser ma pensée, tant le sujet est large, c'est-à-dire que c'est à la fois un film sur donc le We Blew It, donc une sorte de nostalgie des années 60, donc ce qu'étaient les années 60, ce que ça comportait d'idéologie contradictoire et ce qui est resté dans l'Amérique d'aujourd'hui.
We Blew It, on a tout foutu en l'air.
Voilà, on a tout foutu en l'air. C'est aussi un film sur l'état politique de l'Amérique au moment des élections, puisqu'il a tourné au moment des élections, donc Trump-Clinton. C'est aussi un film sur le cinéma américain des années 60-70, avec en effet des réalisateurs qui s'expriment sur l'évolution de leur rapport au cinéma, donc quelque chose d'assez pointu. Donc ça part absolument dans tous les sens, de choses très petite, enfin le sujet cinéma dans une période donnée, a des choses extrêmement vastes, presque historiographiques, de ce que sont les États-Unis par rapport aux États-Unis des années 60. Alors moi, tous les passages sur la mort de Kennedy, le Vietnam, Woodstock, on a vu toutes ces images mille fois, ces images d'archives. Mais si, on les a vues mille fois. Dallas, l'avenue où Kennedy s'est fait...
Vous l'avez vu comme ça?
Bien sûr.
Vous l'avez vu comme ça, dans une voiture qui fait le parcours. Vous l'avez vu comme ça?
Oui, enfin, moi, j'ai l'impression. Donc, je veux dire, après, j'en sais rien. Mais du coup, ça ne fait que m'évoquer des clichés sur les États-Unis des années 60 à nos jours, en deux heures. Honnêtement, je ne comprends pas ce qu'il essaye de nous dire. Sinon, éventuellement, cette espèce de nostalgie des années 60-70, avec laquelle même j'ai un problème. Il interroge absolument que des hommes, quasiment. Il y a très, très peu de femmes. Que des hommes blancs. Alors moi, la nostalgie des hommes blancs sur les années 60 aux États-Unis, honnêtement, il y a quelque chose, même presque de gênant politiquement, si tant est qu'il y ait un sujet politique dans ce film. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ce film.
Florence Colombani.
Oui, je pense que c'est un film d'amour avec les bons côtés et les mauvais côtés. C'est-à-dire qu'il est épris des États-Unis, il est épris des paysages, des gens. Je trouve que ça a l'avantage que quand il interroge, par exemple, les supporters de Trump, il ne le fait pas avec la distance et la condescendance qu'on attend du Français qui est parti sur la route aux États-Unis et qui tout à coup tombe sur quelqu'un d'assez caricatural qui a trois pistolets, un masque de Trump, la casquette Make America Great Again, etc. Il regarde ces gens avec respect et il les laisse parler. Et il nous met face aussi à l'énigme de cette pensée-là, je trouve, en leur donnant le temps de la déployer. Si on peut parler de pensée, enfin bon, c'est un autre problème. Mais en tout cas, il y a une tentative d'appréhender cette réalité-là, cette réalité politique qui était en train de se jouer au moment où il a tourné, avec respect et avec un certain... Mais je suis d'accord sur le fait que son amour intense qu'on sent et qui donne la beauté esthétique dont Corinne Rondeau parlait, c'est aussi un piège. C'est que du coup, il ne trie pas, il ne filtre pas. Il est aussi intéressé par le complotiste qui est posté là où Kennedy a été tué pour expliquer qu'en fait, il y avait sûrement deux tireurs. Mais qui est quand même... Enfin, je sais pas, on pourrait en trouver 3000 des gens comme ça et qui n'a rien de particulier à apporter au discours. Il est aussi intéressé par lui que par Michael Mann, enfin, je sais pas, des figures, des géants du cinéma américain qu'on est content d'entendre parler et à qui on voudrait entendre dire autre chose. Moi, alors, juste, Arnaud, vous citiez Charles Burnett, qui est donc un réalisateur noir américain, peut-être un des rares, en effet, noirs américains du film. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment la beauté du film, c'est que c'est une figure extrêmement émouvante, une présence, et pour le coup, quelqu'un qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre parler, et qui fait le lien entre cette nostalgie des années 60, époque également d'une grande violence pour les noirs américains, puisque bataille pour les droits civiques et en même temps... mort de Martin Luther King et voilà et moments avec des émeutes très difficiles et la période récente il y a beaucoup d'allusions à tous les meurtres par la police de noirs américains dans les dernières années et lui est une sorte de lien affectif et personnel entre ça ces moments là et donc moi j'ai vu là un fil que j'aurais aimé voir plus tenu quoi mais je pense en effet qu'il s'est... Il y a trop de choses dans ce film.
Alors, il est tenu d'une certaine façon. Moi, je me suis demandé pendant le début du film, je trouvais qu'il mettait du temps à démarrer. En fait, bon, force m'a été de constater que c'était le rythme choisi par Jean-Baptiste Torré, c'est-à-dire de très longs plans de paysages. Alors, sublime. Je pense que l'Office du tourisme des États-Unis peut les utiliser tels quels. Ils sont absolument magnifiques. Des chansons aux paroles quand même extrêmement signifiantes. D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu sous-titrer les chansons pour cette sortie en France, qui est quand même voilà, le pays où ça sort en premier. Quelques bribes d'entretien, vous disiez, Florence Colombani, il laisse la parole se déployer. Pour moi, le gros problème, c'est qu'il laisse rien se développer, justement. C'est qu'on a vraiment des tout petits bouts d'entretien avec... quand même le plus souvent, moi, je rejoins Lucille Comeau, des portes ouvertes enfoncées, et surtout l'impression que Jean-Baptiste Torré a trouvé comme des marionnettes pour dire ce qu'il, lui, dit et écrit depuis très longtemps, sur l'assassinat de Kennedy, la perte de l'innocence des États-Unis. Bon, il l'a dit tellement souvent que de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, c'est très, très étrange. Sur le Vietnam, sur le Nouvel Hollywood, sur Woodstock, j'ai l'impression qu'il a soit il fait dire, soit en tout cas, il a gardé les gens qui disent ce que lui dit, et c'est tout à fait son droit. Et c'est souvent le plus très intéressant ce qu'il dit, Jean-Baptiste Torré. Mais là, j'ai un curieux effet. Pour le coup, là, connaissant le garçon, contrairement à Lucille Comeau, c'est étrange de faire dire par d'autres ce qu'on dit depuis des années. Et puis, c'est quand même aussi souvent assez manichéen. On alterne souvent entre quelqu'un qui dit les années 60-70, c'était le paradis sur Terre. La séquence d'après, c'est quelqu'un qui va dire qu'en fait, c'était l'enfer. Là, c'est assez binaire quand même. Vous n'êtes pas d'accord, Corinne Rondeau, mais vous allez me dire pourquoi. Et puis, la structure du film que je n'ai pas du tout compris. Alors, sauf si on se dit que c'est la route qui fait le film, mais j'y crois pas, parce qu'il y a des trucs de New York qui reviennent à différents moments. Donc c'est quand même, il n'est pas dans un montage chronologique de la durée du moment du tournage. Donc quand tout d'un coup, il y a un bloc qui arrive sur la guerre du Vietnam, dont on avait parlé une demi-heure avant, je comprends pas pourquoi c'est là. Pourquoi il s'arrête aussi longtemps dans la ville fantôme, qui le fascine peut-être lui, mais ça, il n'arrive pas vraiment à nous transmettre cette fascination-là. Bref, c'est un peu compliqué comme film, parce que je comprends pas ce qu'il a voulu faire au juste. Et moi, j'aimerais la director's cut, la version Torré. On ferait le film, on enlèverait tous les entretiens. Peut-être qu'on garde Michael Mann quand même, qui est génial, mais qui doit avoir quoi, 3 minutes dans le film sur 2h20. Prenons un chronomètre et on vérifiera. Le même film. Moi, j'ai vu le prochain film de Jean-Baptiste Torré, mais je crois que c'est celui-là sans les interviews, Corinne Rondeau.
Non, je crois pas. Je crois que c'était. Moi, je crois que ce film est vraiment une épreuve pour Jean-Baptiste Torré. Évidemment, c'est quelqu'un qui est parti aux États-Unis. Alors, on l'a dit, l'amour des États-Unis. Je crois aussi le mythe des États-Unis. Les États-Unis. Sorrow le disait déjà, que les États-Unis étaient un mythe. C'est-à-dire, quand vous entendez par exemple ce type dans cette boutique où ils vendent des clés, enfin des trucs pour les chiens, je veux dire, ou je crois que c'est cette scène-là, ou je sais pas. Enfin, la manière.
Non,
il y a un personnage une femme qui dit le président Reagan, parce qu'en fait Trump n'est qu'une réplique de Reagan. Hein, je veux dire, il faut un petit peu se calmer. Fin des États du mythe.
Je crois pas du tout, mais bon, ça c'est très court. C'est ce qu'elle dit, elle.
Oui, mais peut-être. Mais je veux dire,
elle dit Trump aime les États-Unis comme Reagan les aimait. Bon.
Non, mais c'est évident, je veux dire. Ce n'est pas la vision de la Constitution américaine, ce n'est pas ni Reagan ni Trump. La Constitution fait que le président, c'est celui qui se découvre, qui enlève son chapeau en saluant son peuple. Ça, c'est du Walt Whitman. Et c'est ça qui, à mon avis, il est allé chercher, en cherchant une sorte d'équilibre, d'égalité entre des gens qui sont des kidam et puis des réalisateurs. Moi, ce que je trouve, c'est un film et c'est une épreuve que s'accorde Jean-Baptiste Torré. Donc, je pense que quand on voit son film, quand on sait les films qu'il a traversés en termes d'historien du cinéma. Quand on a vu ces films, on sait les films. On les voit, les films. On voit Vanish...
Non, mais... C'est quoi,
je veux dire, oui, mais peu importe. Je veux dire, vous trouvez qu'il est éclaté. Moi, je trouve que ce film n'est pas du tout éclaté. D'ailleurs, une des images au début du film, vous avez en surimpression le rythme de la marque au sol d'une route et ensuite une route. Donc, ça fait comme une croix.
Ouais.
Et cette route, on va la retrouver à la fin, toute fin du film. Donc, il faut rester à la fin du film, d'ailleurs, pour après même le générique. Hein, j'invite tout le monde à rester. Mais c'est justement qu'est-ce que c'est que de traverser de l'histoire en reprenant une route dont il sait qu'il n'y a plus personne sur cette route. Et donc c'est une manière de colorer son film par de la parole. Alors vous y retrouvez sans doute quelque chose de la pensée de Torré, mais je pense aussi que c'est une manière de faire un deuil. Et je crois que le film de Torré, c'est une manière de faire tomber le mythe américain sur la période 64-68 ou 68-74, je crois que c'est plutôt ça. Et moi, je trouve que le film est absolument passionnant là-dessus.
Lucille Comeau.
Je ne sais pas comment on fait tomber un mythe en représentant tous ces clichés. Enfin, c'est vraiment uniquement, ce ne sont que des clichés sur l'Amérique. je ne vois pas ce que vous trouvez de spécifique, quel discours il livre sur cette culture des années 60-70, sur ces gros mythes que sont Woodstock, la mort de Kennedy. Enfin,
vous avez vu comme tout le monde des films sur le Vietnam, vous avez vu comme tout le monde que vous étiez fatigué de voir Kennedy mort, alors qu'en fait, là, c'est la première fois que moi, je prends la route par laquelle...
Bon, enfin, vous n'avez pas vu JFK d'Oliver Stone?
J'ai oublié, parce que c'est vraiment le plus mauvais film du monde.
Mais on est d'accord, mais cette route, je cite celui-là parce que c'est le plus connu, mais on l'a fait mille fois, ce plan.
Écoutez, moi, je défends ce film.
Non, mais c'est très bien.
J'aime ce film.
Mais on aimerait
comprendre pourquoi. Je ne vois pas pourquoi Björk McEnroe... et voilà. Indépendamment de ça. Non, mais je trouve qu'il a vraiment... Il a conduit son film.
Le mot de la fin pour Florence Colombani.
Non, j'ai trouvé ça amusant parce que donc il y a un grand romantisme attaché aux années 60 dans ce film quand même.
Oui,
et c'est pas du tout.
C'est
assumé, c'est comme ça. Mais par contre, il y a un esprit très méchant contre les années 80 et j'ai trouvé ça assez drôle parce que je pense que les années 80, au contraire, connaissent une sorte de retour en vogue aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de nostalgie attachée aux années 80. Et je me suis dit peut-être qu'un jour on fera le film équivalent. Autour des années 80. Enfin, il y a aussi tout simplement, c'est une période lointaine à laquelle on associe une nostalgie d'autant plus facile à développer qu'elle est lointaine.
Oui, Bleu est allé voir par vous-même dans les salles, bien sûr, ce film de Jean-Baptiste Storé qui est sorti mercredi dernier. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute, et on commence par un rappel du jeu d'hier au soir. Grégoire Di Fiore nous a rejoint sur notre petite table au Bel Air pour nous rappeler la question et nous livrer la réponse, Grégoire.
Qu'a-t-on reproché à Clouzot concernant son film Le Corbeau ?
Et la réponse ?
De ternir l'image des Français pour le compte de l'occupant nazi.
Voilà, pour faire la suite de notre débat de tout à l'heure, on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition qui s'appelle Globe, architecture et sciences explore le monde, à découvrir à la Cité de l'architecture et des patrimoines à Paris. Jusqu'au 26 mars, quelle est la question, Grégoire ?
Qui a fabriqué le premier globe terrestre ?
Aïe. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Sur lequel vous pouvez réécouter les envolées de Corinne Rondeau, les agacements de Lucille Gaumont et vous abonner bien sûr au podcast de la dispute lundi à 19h, une dispute consacrée au spectacle vivant. Je serai en compagnie de Lucille Gaumont qui sera, je pense, assez énervée, on verra, avec également Fabienne Pascaud et René Solis. Nous parlerons de Jusque dans vos bras, mise en scène par Jean-Christophe Maurice, c'est au Bouffe du Nord à Paris. Bella Figura, texte, mise en scène, Yasmina Reza au théâtre du Rond-Point, et le diptyque Memories of Sarajevo et Dans les ruines d'Athènes par le Birgit Ensemble, à découvrir à la Fabrique en ce moment, théâtre des quartiers d'Ivry.